Alors, le premier orateur sera Geneviève Joly-Chély-Delage, qui est professeure de droit pénal et procédure pénale comparée à l'Université de Paris 1. Elle est la responsable du DEA Droit pénal et politique criminelle en Europe de Paris 1 et elle est rédactrice en chef de la revue Sciences criminelles, qui vient de publier d'ailleurs un numéro sur, spécial sur le droit pénal de l'ennemi, droit pénal de l'ennemi, droit pénal de l'inhumain. J'ajoute qu'à l'heure actuelle, elle dirige avec Christine Lazerge une recherche sur la dangerosité. Donc on est vraiment au cœur du sujet. Et je lui donne tout de suite la parole sur le thème qu'elle a proposé, droit pénal de la dangerosité, droit pénal de l'ennemi. On s'y retrouve. Merci d'avoir accepté de venir.
Merci. Nous voilà donc entrés dans le présent, celui que nous annonçait Jean Danet à la fin de son intervention. Et pour reprendre certaines des expressions qu'il a utilisées, je dirais un présent où le code et les lois n'hésiteraient plus désormais à faire place à une pénalité qui donne à la société des droits sur les individus à raison de ce qu'ils sont et non plus à partir de ce qu'ils ont fait, ainsi que l'imposait le droit pénal moderne depuis la fin du XVIIIe siècle, pour le moins. Un présent qui serait l'émergence et la recomposition d'une nouvelle, d'une autre pénalité, se construisant autour des notions de dangerosité et de risque, plus que de culpabilité. Et c'est peu ou prou le constat de ces émergences nouvelles que Jean Pradel a fait dans son commentaire de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pour cause de trouble mental. D'abord parce que Jean Pradel a rebaptisé cette loi en l'appelant « loi sur les criminels dangereux » pour mettre en exergue que ces deux institutions ne sont, selon ses propres termes, que les deux faces d'une même question, la dangerosité de certains. Ensuite, parce que ces deux institutions nouvelles lui apparaissent constituer une double révolution, c'est le titre de son article, une double révolution, doit-on comprendre, au regard des principes du droit pénal moderne. Alors, je ne reviendrai pas sur le droit pénal moderne, on en a déjà parlé ce matin, je dirais simplement un droit pénal moderne, du moins si on l'envisage en tant que système mixte, qui pourrait échapper tout à la fois aux excès de la justice absolue et à ceux de la défense sociale, prenez la justice et l'utilité, c'est-à-dire la combinaison nécessaire, disait Garot, du juste et de l'utile, car les séparer conduirait à des conséquences également dangereuses, et prenez notamment, pour ce qui nous intéresse, qu'une peine n'est juste qu'autant que l'acte est reprochable, ce qui écartait toute possibilité de punition en dehors de toute imputabilité morale, et que la peine a tout ensemble une fonction rétributive et préventive spéciale, nous en avons déjà discuté ce matin, ce qui écartait toute possibilité de séparer culpabilité et dangerosité. Or, c'est bien la remise en cause de l'écart de ces deux possibilités que voit Mireille Delmas-Marty dans le droit pénal français actuel, et ceux qui ont suivi son cours vont reconnaître sans doute quelques-uns des passages de ce cours. Reprenant elle aussi la phrase de Jean Pradel, les deux faces d'une même question, elle souligne que les deux nouveautés de la loi sont surtout les deux faces d'un même discours, destiné à apaiser les victimes et à rassurer l'opinion, aboutissant ainsi, selon ses expressions, à vider la responsabilité pénale de toute signification, prise qu'elle serait entre une dangerosité sans culpabilité et une culpabilité sans imputabilité. Une dangerosité sans culpabilité, parce que la dangerosité s'autonomise, nous avons plusieurs fois utilisé ce terme, devient un concept détaché de l'infraction pénale, légitimant après l'exécution de la peine, non seulement des mesures de soins ou de surveillance, mais encore avec la rétention de sûreté, un enfermement de durée indéterminée, le seul lien entre la surveillance ou l'enfermement et l'infraction pénale, tenant au fait qu'une peine a été précédemment prononcée et exécutée pour un acte faisant partie d'une liste d'infractions dont le législateur présume qu'elles montreraient la dangerosité de leurs auteurs. Une culpabilité sans imputabilité, parce que la loi nouvelle, si elle ne modifie pas la façon de concevoir la responsabilité pénale en cas d'absence de discernement, autorise toutefois une audience où sera établie l'imputation matérielle des faits, où pourra être décidée une hospitalisation psychiatrique, où pourront être prononcées d'autres mesures de sûreté, qualifiées telles par la loi, mais dont la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé il y a quelques mois qu'elles constituaient en réalité des peines, cette décision constatant implicitement que le droit français permet désormais la punition sans l'imputabilité. Mais si ces deux nouveautés constituent le franchissement de limites, elles s'ancrent dans un ensemble plus vaste où se développe une désindividualisation judiciaire de la peine avec les peines planchers, une radicalisation des mesures de contrôle et de surveillance, un maillage de plus en plus étroit des fichiers et bases de données personnelles, permettant une traçabilité individuelle au nom de la dangerosité et du risque. Les fissures dans la digue du droit pénal moderne sont ainsi de plus en plus nombreuses et l'on ne peut s'empêcher de penser à la mise en garde de Garot, aux conséquences dangereuses, si juste et utile devaient être séparés l'un de l'autre, et de penser à la phrase de Foucault citée par Jean Danet tout à l'heure, « Sans doute a-t-on cessé de pressentir ce qu'il y aurait de redoutable à autoriser le droit à intervenir sur les individus à raison de ce qu'ils sont ». En tout cas, les pratiques montrent indéniablement la mise en place de ce que l'on appelle, mais l'appellation elle-même appellera réflexion, un droit pénal de la dangerosité en France. Peut-être plus encore dans certains pays étrangers, et l'on a déjà plusieurs fois ce matin parlé de droit comparé. L'émotion suscitée, du moins chez quelques-uns, notamment par la création d'une rétention de sûreté, s'explique sans doute par le fait que la France a plus longtemps et mieux résisté, pour quelles raisons ? Je ne sais, certaines ont été avancées, mais peut-être qu'il y en a d'autres, à cette nouvelle forme de droit pénal que certains autres pays. Et Jean Pradel, pour justifier la loi de 2008, l'a rappelé. Plusieurs législations européennes, écrit-il, ont créé un instrument analogue ou très proche, comme les Pays-Bas, la Belgique, l'Angleterre, la Suisse ou l'Allemagne. Et Jean Pradel aurait pu, il est vrai, élargir cette comparaison à d'autres pays ou à d'autres mesures de surveillance ou d'interdiction de fichage. Sans doute les dispositions ne sont-elles pas toujours semblables, mais leurs effets en sont très comparables. Sans doute aussi leurs fondements techniques peuvent-ils différer, mais la dangerosité, de manière explicite ou non, constitue toujours le cœur de ces dispositions. Les pratiques apparaissent ainsi partagées, leur proximité donnant à ce droit une allure d'inéluctabilité. Est-ce finalement là l'une des explications de la mollesse de la plupart des protestations françaises et du silence sans viser celle qui approuve de la majorité de la doctrine pénaliste. Ce sont donc ces pratiques que je voudrais d'abord interroger dans leur temporalité, leur fondement technique, la manière dont elles travaillent de l'intérieur le droit pénal. Mais il ne s'agit bien là que de pratiques qui ne sont pas le résultat d'une réflexion délibérée et approfondie sur la signification du droit pénal et de la responsabilité pénale, comme le notait encore Mireille Delmas-Marty dans son cours. Elle serait, selon elle, un substitut par rapport au véritable enjeu qui est l'incapacité du système à répondre aux objectifs affichés, éradiquer le crime, supprimer jusqu'au risque du crime, d'un discours politique que sous-tend une culture de la peur que le choc terroriste des attentats de New York, Madrid ou Londres a énervé, emportant une double perturbation, une déformation de la réalité par la sélection de cibles, une transformation du contrôle social qui repose sur toujours plus de sécurité par le sacrifice des libertés individuelles, des libertés des cibles identifiées plus particulièrement. Et puisque le thème de cet après-midi nous invite à aller des pratiques aux doctrines, c'est ensuite à l'examen et à la mise en question d'une doctrine, je laisserai de côté, évidemment, la question qui a été abordée ce matin de l'influence, peut-être, de certaines doctrines précédentes, mais je ne voudrais parler que d'une seule doctrine qui se veut descriptive de ces pratiques, la doctrine du droit pénal de l'ennemi, et c'est à cette doctrine que je consacrerai ensuite mon propos. De la temporalité des pratiques, je voudrais simplement souligner les mouvements et les paradoxes, tout cela rapidement. L'histoire des pratiques, qui évidemment ne sera que schématique et non exhaustive, conduit à constater trois périodes. Les mécanismes étrangers, toujours actuels, de prise en compte de la dangerosité, apparaissent au début du XXe siècle, notamment en Angleterre, avec l'emprisonnement à durée indéterminée des délinquants récidivistes lorsque ceux-ci présentent un danger significatif pour la protection des personnes et des biens. Mais ces mécanismes se multiplièrent surtout à partir de la loi néerlandaise de 1928, créant sous l'influence des pratiques jurisprudentielles et au nom de l'efficacité, pour les malades mentaux dangereux, la mise à disposition du gouvernement, c'est-à-dire une détention de sûreté qui, par renouvellement successif, pouvait être limitée, la Belgique adoptant cette mise à disposition en 1930 pour les anormaux et délinquants d'habitude, l'Italie en 1930 faisant entrer les mesures de sûreté dans le code Rocco, l'Allemagne instaurant en 1933 un internement de sûreté pour les criminels d'habitude dangereux, notamment sexuels. Cette mesure de détention sûreté, introduite dans la législation pénale allemande moins d'un an après l'arrivée au pouvoir du parti nazi, a été l'une des très rares législations de cette époque, comme l'a rappelé Mireille Delmas-Marty ce matin, avoir été maintenue par les Alliés en 1945 en Allemagne de l'Ouest. Pour autant, après-guerre, comme toutes les autres lois de dangerosité anglaises, belges, néerlandaises, elle est largement entrée en sommeil, ne s'appliquant que de manière résiduelle à certains délinquants sexuels. Sans doute à cette époque, voit-on le Canada adopter les peines indéterminées pour les repris de justice en 1947 sur le modèle de la loi anglaise de 1908, les États-Unis prévoir des peines planchées dans les années 50 en matière de drogue. Mais ce n'est que vers la fin des années 80, puis celle des années 90, que sont réactivées les mesures de dangerosité par des réaménagements des lois anciennes, notamment à l'égard des délinquants sexuels, une distinction s'opérant alors entre les délinquants dangereux et les délinquants à contrôler, avant qu'au début de notre siècle ne se produise une accélération et pratiquement dans tous les pays un durcissement des mesures précédentes, une accélération qui s'amplifie ces deux dernières années 2007-2008, ayant vu presque partout la mise en place de ou la modification des législations en la matière. Cela fait donc maintenant plus de 20 ans, presque 30 ans, que de réactivation en accélération se dessinent ces nouveaux droits pénaux de la dangerosité. Un paradoxe pourrait être que la réactivation s'est produite, à la différence de certaines théories que l'on a entendues ce matin, alors même que dans certains pays concernés, le Canada, l'Angleterre, les statistiques enregistraient à cette période une baisse de la criminalité. Et c'est le plus souvent à l'occasion d'un fait divers que furent, dans tous les pays, prises ces lois nouvelles. Alors le constat n'est pas nouveau, hein, Clémenceau le faisait déjà pour la relégation. Mais peut-être ce qui est nouveau, c'est l'audience de ces faits divers qui s'amplifient, l'on pourrait dire qui s'internationalisent par l'effet de la médiatisation. Par exemple, l'impact de l'affaire Dutroux ne s'est pas fait sentir simplement en Belgique, mais aussi en Allemagne. Ce que l'on peut constater aussi, c'est que certaines de ces lois portent le nom de la victime, comme la Megan Slow aux États-Unis, qui est une loi fédérale américaine qui impose aux États d'organiser la surveillance des délinquants sexuels sortis de prison sous peine de perdre les subventions qui leur sont allouées par l'État fédéral. C'est dire que tous les États ont choisi d'avoir une Megan Slow, mais l'impact de cette loi s'est aussi fait sentir au Canada. Quant à l'accélération, sans doute n'est-elle pas étrangère à la menace terroriste, certains subissant en quelque sorte les dommages collatéraux du 11 septembre. Un autre paradoxe pourrait être la survie des législations des années 30, et notamment de la loi allemande, dans un régime démocratique. Son origine nazie n'a, semble-t-il, gêné ni les Alliés, mais il y aurait beaucoup à dire sur l'indifférence, pour ne pas dire l'adhésion à certaines pratiques eugénistes, ni la Cour constitutionnelle allemande. Mais sans doute, cette survie n'a-t-elle été possible dans les premières décennies que parce que ces lois n'étaient pas appliquées ou peu appliquées. une certaine ineffectivité qui rencontre celle des lois inspirées dans certains pays par la défense sociale nouvelle dans les années 50-60 dont nous a parlé Jean Danet. Sans doute que l'heure n'était pas bien choisie pour ces lois. Il y a sans doute des raisons diverses et multiples, mais je voudrais simplement, alors c'est peut-être une forme de boutade, je ne sais pas, mais je voudrais simplement en signaler une. Si l'on considère que l'essor, la réactivation, l'accélération ne se sont produits qu'à des périodes de crise économique plus ou moins forte, c'est-à-dire dans des périodes où les populations sont plus facilement accessibles à un discours de peur et d'exclusion, et vous voyez, ce sera vraiment une boutade, en bref, pour anticiper sur le débat comment sortir de l'impasse, programmons 30 nouvelles glorieuses. Quelle que soit la temporalité, les mesures étrangères liées à la dangerosité ne reposent pour autant pas sur les mêmes fondements techniques dans tous les pays. Les mesures les plus anciennes en Angleterre, aux États-Unis ou au Canada s'inscrivent dans une logique de la peine, qu'elle soit indéterminée ou peine planchée. Mais si la dangerosité a pu y tenir une place importante, c'est certainement parce que dans les systèmes anglo-américains, la protection du public constitue la fonction première de la justice pénale. Protection du public qui figure en Angleterre dans le nom même de la mesure IPP, emprisonnement à durée indéterminée en vue de la protection du public. Et que par ailleurs, le pragmatisme anglo-américain ne s'embarrasse guère de la détermination de la nature des mesures mises en place. Tout au contraire, c'est sur le fondement d'une dogmatique que la détention de sûreté et autres mesures de sûreté ont pu s'enraciner dans la plupart des pays continentaux. Cette dogmatique, c'est la théorie de la double voie, selon laquelle, à l'égard de la personne concernée, la peine a pour objectif exclusif de répondre à la faute et la mesure de sûreté pour objectif exclusif de défendre la société. Rétribution pour la peine, prévention spéciale pour les mesures de sûreté et d'amélioration, ces deux voies reposent sur une séparation claire et peuvent se cumuler si l'intérêt de la société le justifie. Cette distinction fondamentale en droit allemand a été validée par la Cour constitutionnelle fédérale en 2004. La détention sûreté ne visant pas la culpabilité, mais le danger que représente le détenu, elle n'est donc pas une peine au sens du droit allemand, et dès lors, les principes du droit des peines en l'espèce étaient en question la non-rétroactivité, ne lui sont pas applicables. Cette distinction peine-mesure de sûreté, le Code pénal français de 1994 ne la connaissait pas. Toute mesure prononcée par le juge pénal était une peine soumise à tous les principes du droit pénal. Et pourtant, Mireille Delmas-Marty l'a rappelé ce matin, insidieusement, la distinction est réapparue dans la jurisprudence de la Cour de cassation d'abord, dans les législations ensuite, présentée par une partie de la doctrine comme une distinction claire et incontestable, acceptée par le Conseil constitutionnel, si ce n'est que face à la rétention de sûreté, le malaise du Conseil, pour reprendre une expression de Christine Lazerge, s'est fait jour, ce dernier n'ayant finalement qualifié la rétention ni de peine ni de mesure de sûreté. Quoi qu'en dise la dogmatique, la séparation n'est ni claire ni incontestable. Non seulement parce que toute peine comporte un objectif de prévention, et parce que toute mesure de sûreté prononcée par le juge pénal est ressentie par celui qui l'a subie comme une rétribution-punition, mais encore parce que le droit comparé montre que les mêmes mesures peuvent indifféremment, selon les pays, être qualifiées de peine ou de mesures de sûreté. Pour exemple simplement, dans les pays continentaux, la détention sûreté allemande est sans conteste une mesure de sûreté. La rétention de sûreté en France, on ne sait pas ce que c'est, mais l'on pourrait avancer que c'est une mesure de sûreté inavouée au régime spécifique. La mise à disposition belge est une peine complémentaire, alors que foncièrement, toutes ces mesures sont semblables. L'enjeu de la qualification ne tient donc pas à l'essence de la mesure, mais à son régime, à sa soumission ou non au principe du droit pénal. C'est ainsi que la dangerosité travaille le droit pénal de l'intérieur. De l'enjeu de la qualification, en effet, les conséquences sont considérables puisque retenir la qualification de mesure de sûreté permet d'écarter tout, enfin, ou presque, pour tenir compte en France du malaise constitutionnel, les principes du droit pénal. Je me limiterai à deux exemples. La non-imputabilité n'interdit nullement une détention de sûreté, peu importe son nom, qui peut être illimitée. Il arrive même que le sort des malades mentaux soit identique, peu important leur imputabilité. La dissociation culpabilité-dangerosité autorise le principe de proportionnalité ne joue que pour la peine, qui peut être courte, mais non pour la mesure de sûreté qui peut être longue, le contrôle de la mesure portant sur l'existence, mais pas forcément sur la gravité de la dangerosité. Et Mireille Delmas-Marty a parlé ce matin de l'affaire Muqueux, qui devrait être jugée prochainement par la Cour européenne. Rappelons, 5 ans de prison pour un vol qualifié et des coups et blessures, plus de 18 ans ensuite de détention. C'est-à-dire une peine qui, là, vous le voyez, n'aurait pas pu être prononcée par rapport à l'acte qui avait été accompli. Mais je dirais surtout que l'effet d'ultima ratio du droit pénal n'a plus à jouer sa fonction d'endiguement et que rien n'interdit une extension continue, puisque la mesure n'a pour seul but que de protéger la société et n'emporte à l'égard de la personne ni affliction ni infamie, selon la Cour constitutionnelle fédérale allemande. L'exemple sera encore allemand. Alors qu'à l'origine, la détention sûreté ne s'appliquait qu'aux majeurs, aux conditions suivantes. La loi sur la détention sûreté devait être applicable au moment du jugement. La personne devait être condamnée pour la troisième fois. Le tribunal devait décider de la détention sûreté dont la durée était limitée à 10 ans lors du jugement de cette troisième affaire. La dangerosité devait être constatée à ce stade, dorénavant, par vagues successives de modifications depuis 1998. La détention sûreté peut s'appliquer pour toute dangerosité, même apparue postérieurement au jugement, c'est-à-dire en prison. Même si le tribunal ne s'était pas réservé la possibilité de statuer ultérieurement sur une éventuelle dangerosité. Et même si au moment de la condamnation, la loi sur la détention sûreté n'était pas applicable, cela concerne principalement les ressortissants de l'ex-RDA. Il suffit d'une seule condamnation préalable ou même de simples réitérations. La détention peut être illimitée, cette mesure s'appliquant à partir de prononcés de peines relativement faibles, 2 ans le plus souvent, sans oublier que le dispositif s'applique désormais aux mineurs pour certaines infractions si la peine prononcée est au moins de 7 ans de privation de liberté. Et c'est bien là le paradoxe d'un droit pénal qui, justement, parce qu'il n'en est pas un, peut ainsi proliférer. Mais ne s'attacher qu'à l'effet de la distinction peine-mesure de sûreté serait sans doute une erreur. Car même lorsque les dispositifs s'inscrivent dans la logique de la peine, les règles du droit pénal peuvent se trouver perturbées. Ainsi, le Canada, en 2008, a instauré une présomption de dangerosité imposant à la personne concernée de démontrer son absence de dangerosité, seul moyen d'échapper à la déclaration de délinquant dangereux et au prononcé d'une peine de détention pour durée indéterminée, qui certes pourra cesser, mais à la condition que la personne établisse qu'elle n'est plus un danger pour le public. Je dirais qu'il s'agit là de 2 preuves aussi impossibles l'une que l'autre à rapporter. L'Angleterre avait établi une telle présomption obligatoire en 2003, reflux suffisamment rare pour le noter, la présomption est devenue facultative pour le juge en 2008. Ainsi, l'existence dans certains États des États-Unis du verdict de culpabilité pour les malades que nous appellerions irresponsables. La décision est prise indépendamment de leur état mental. La décision est donc qu'ils sont coupables. Puis ensuite, on se prononce sur leur état mental et on les considère malades mentaux. Puisqu'ils sont déclarés malades mentaux, ils doivent donc être soignés. Mais s'ils guérissent avant le terme de leur condamnation, ils devront purger la peine à laquelle ils ont été condamnés. Ainsi encore, du développement, mais je pense que nous aurons l'occasion d'en parler, d'une justice actuarielle, notamment en Amérique du Nord, qui, pour décider de la peine, se réfère à des statistiques ou à des critères nécessairement étrangers au cas particulier ou à la personnalité de l'auteur. Le droit pénal de la dangerosité est ainsi un droit pénal rongé de l'intérieur et dont les frontières extérieures sont également incertaines, non seulement parce qu'il se colore de plus en plus d'élaborations et de méthodes propres au droit civil, pour reprendre les expressions que Jean Danet a empruntées à Michel Foucault, il y aurait beaucoup à dire, mais je n'en dirai rien, mais encore parce que son identité incertaine le démarque mal de la multiplicité, surtout dans les pays anglo-américains, de mesures restrictives ou privatives de liberté, certificats de sécurité, orders divers, engagements ante delictum de ne pas troubler le public, mesures qui visent des individus parfois en raison d'actes commis, parfois en raison d'actes qu'ils seraient susceptibles de commettre, de par certaines de leurs particularités, appartenance à des groupes ou tout simplement à une population désignée à risque. Se dessinent ainsi les figures de la dangerosité et des dangereux. La liste pourrait en être longue. S'y trouveraient malades mentaux, délinquants sexuels, toxicomanes, alcooliques, violents, membres de groupes, criminels organisés ou pas, membres de minorités, étrangers, terroristes, mais aussi jeunes. Certaines de ces figures sont récurrentes, d'autres sont éphémères selon les lieux et les époques. Par exemple, le délinquant sexuel a longtemps été l'homosexuel. Il est devenu le pédophile, mais il peut être aussi l'exhibitionniste. Selon les pays, les figures fortes ne sont pas forcément les mêmes, mais se retrouvent plus ou moins partout la même classification. Je n'irai pas jusqu'aux catégories dont on parlait. Les miennes, vous allez voir, sont très simples. Les incorrigibles, ce que l'on appelait dans le temps les incorrigibles, auxquels s'adressent des mesures de rétribution, prévention et puis, au troisième coup, élimination. Élimination qui n'est pas forcément la peine de mort dans certains pays, mais qui peut l'être dans d'autres pays. Incontrôlable et imprévisible. Dangereux par cela même, sur le fondement de la prédiction d'une chose qui, par sa nature, semble imprévisible, auquel s'adressent des mesures d'amélioration par le soin, de neutralisation par la surveillance, voire par la ségrégation. Mais il faudrait aussi cerner les figures de la dangerosité par leur envers, les figures de la non-dangerosité. Et l'on pourrait sans doute constater que parmi ces non-dangereux, certains font courir des risques immenses, économiques, financiers, écologiques. C'est-à-dire que ce n'est pas le risque qui est pris en compte de manière objective, mais bien le risque que font courir certains pour ce qu'ils sont ou pour ce que les sociétés présument qu'ils sont. Zaffaroni estime ainsi que la rhétorique du bouc émissaire est à l'œuvre. Il n'est donc pas étonnant que certains discours nomment ces dangereux ennemis, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur. Dès lors, il est temps, vous l'avez compris, que je m'intéresse à la doctrine du droit pénal de l'ennemi. Parlons de nos jours de doctrine du droit pénal de l'ennemi, ou parler de nos jours de cette doctrine, c'est renvoyer, et je dis bien de nos jours, c'est renvoyer à la pensée de Günther Jacobs et au débat international qu'a suscité son premier essai paru à la fin des années 90. Un débat qui a porté non seulement sur la validité axiologique de la doctrine, mais encore sur l'existence d'un droit pénal de l'ennemi, sur ses contours, ses contenus, sur l'ennemi entendu comme paradigme, c'est-à-dire comme référence pour la construction d'un droit pénal nouveau. Sur ce débat, je vous engage donc à lire le numéro 1 2009 de la revue de sciences criminelles, intitulé « Droit pénal, j'insiste, droit pénal de l'ennemi, droit pénal de l'inhumain », avec plusieurs articles sur cette question. Pour l'instant, je me contenterai de parler de la position de Jacobs, étant entendu que je la schématiserai, et là encore, je vous renvoie à la lecture de son article dans la revue de sciences criminelles. La position de Jacobs est qu'il existe déjà un droit pénal de l'ennemi. Son objectif n'est donc pas d'inventer ou de construire un tel droit, mais simplement d'en constater l'existence, de le décrire. Étant précisé que si le droit pénal de l'ennemi est souvent compris comme le droit pénal capable d'affronter les agressions venant des ennemis absolus que sont les terroristes, il faut se rappeler la date du premier essai de Jacobs, antérieur aux attentats du 11 septembre, et surtout constater que ce dernier estime que le terroriste n'est que l'exemple extrême de l'ennemi et que c'est notamment sur la détention sûreté allemande que Jacobs a fondé sa réflexion. La doctrine vise ainsi tous les dangereux et pas seulement les terroristes. Et il me semble important d'en tenir compte, car braquer les projecteurs sur les seuls terroristes risquerait de laisser dans l'ombre le sort de beaucoup d'autres, bien plus nombreux. Jacobs écarte d'emblée la question de l'être humain pour privilégier le concept de personne juridique et constater que tous les êtres humains n'ont pas forcément tous les mêmes droits. Un enfant a moins de droits qu'un adulte. Il ne peut pas voter, par exemple, c'est peut-être dommage au regard d'hier. Dès lors, le concept de personne juridique est un concept élastique. La diversité de qui juridiquement est personne exclut donc de considérer au regard de leurs droits toutes les personnes comme identiques. Seul le citoyen a une personnalité juridique pleine. Il introduit ensuite la notion de contrainte. Toute contrainte, garde à vue, écoute téléphonique, peine, restreint les droits de l'individu et constitue donc une dépersonnalisation plus ou moins forte suivant l'intensité de l'atteinte aux droits. Enfin, il oppose entre eux certains concepts, culpabilité versus dangerosité, citoyen versus ennemi individu dangereux, ennemi à l'extrême terroriste, dit-il. La culpabilité est réservée au citoyen, car malgré l'acte qu'il a commis, on peut attendre de lui qu'il se comportera à l'avenir de manière légale. La dépersonnalisation qu'il subit est limitée à la seule contrainte de la peine en rétribution de son acte. La dangerosité interdit une telle attente. La société doit se protéger comme elle se protège contre un ennemi, si et aussi longtemps qu'elle ne peut pas attendre de l'individu qu'il se comportera de manière légale. Et la contrainte, donc la dépersonnalisation, est plus ou moins forte selon les cas, mais elle peut devenir extrême. De cet ensemble, il ressort un premier constat, à savoir que toute contrainte est une forme de dépersonnalisation, que la culpabilité ne s'adresse qu'aux citoyens, la dangerosité à l'ennemi. La dépersonnalisation du citoyen est limitée, celle de l'ennemi peut être extrême. Jacobs examine ensuite les mécanismes du droit pénal de l'ennemi qui reposent sur les mesures de sûreté, comme la détention-sûreté, et les mesures d'anticipation. Le deuxième constat est donc que le droit pénal de l'ennemi est un droit d'exception et qu'il vaut mieux le reconnaître comme tel afin de ne pas brouiller les catégories pénales. Il existe un droit pénal du citoyen et à côté et en opposé un droit pénal de l'ennemi. Le troisième constat est que ce droit pénal matériel de l'ennemi s'accompagne d'un droit procédural de l'ennemi, droit dérogatoire, qui restreint ou annihile les règles du procès équitable. Nions plus court, le droit au juge naturel, les droits de la défense, le droit au silence, le droit au recours, etc. Il résonne alors principalement sur le terroriste. Le procès équitable est donc un droit du citoyen, il n'est pas celui de l'ennemi. La position personnelle de Jacobs est que certes, avec des mesures telles la détention-sûreté, l'on a quelque part franchi le Rubicon. Que l'image dominante est celle de la dépersonnalisation, de la nécessité de la contrainte, que la dangerosité de l'individu détenu prime surtout, qu'il est devenu un ennemi, qu'il n'est plus un citoyen. Mais que l'État, qui doit et veut protéger ses citoyens, ne peut pas se passer d'une telle institution, et plus généralement d'un droit pénal de l'ennemi. Que priver quelques-uns de certains droits pour combattre une source de danger est une lutte, une guerre. Tout autre mot serait un embellissement de façade, dit-il. Pour autant, un État de droit, qui au nom d'une conception idéale et abstraite se refuserait à employer de tels moyens, perdrait de sa réalité. En bref, sauvegarder l'État de droit suppose aussi d'employer des moyens contraires à l'État de droit. Justifié par une exigence de réalisme, le droit pénal de l'ennemi le serait encore, du fait même que ce sont les individus eux-mêmes qui se sont exclus du jeu, en raison de leurs actes et comportements. Voilà, exactement, pas de liberté pour les ennemis de la liberté. Il y a plusieurs manières d'aborder la doctrine de Jacobs. L'on peut d'abord ne s'intéresser qu'à sa valeur explicative des pratiques. Sous cet angle de vue, la thèse de Jacobs montre moins partiellement en quoi le Rubicon a effectivement été franchi. Le droit pénal de la culpabilité menacé par le droit pénal de la dangerosité, le droit pénal de l'infraction supplanté par le droit pénal de l'auteur en tant que danger, la finalité resocialisatrice de la peine remplacée par celle d'exclusion, neutralisation, élimination, troisième coup, peine indéterminée, détention de sûreté indéterminée, régime pénitentiaire ou hospitalier dur, ségrégation de fait, etc. Elle montre aussi le brouillage des catégories juridiques dès lors que le droit pénal de la dangerosité ne s'affiche pas comme un droit d'exception et la possible contamination de l'ordinaire par l'exceptionnel. Elle souligne encore l'amputation de droits au-delà de ce qu'implique la peine. Et si Jacob se pense ici plus particulièrement aux terroristes en matière procédurale, d'autres subissent effectivement de telles amputations, ne serait-ce que par exemple en Angleterre, Les malades mentaux, lorsqu'ils sont l'objet d'un restriction order, c'est une décision judiciaire qui interdit au condamné malade mental détenu dans un hôpital d'être entendu par un juge, simplement d'être entendu par un juge, le soumettant ainsi au seul bon vouloir du ministère de l'Intérieur. Pour autant, Jacobs s'est arrêté dans ce constat en chemin. Aller plus loin, évidemment, interdirait toute approbation de ce type de droit pénal. La distinction personne-être humain qu'il pose d'emblée lui permet d'éluder la dépersonnalisation extrême qui conduit à la déshumanisation. Non seulement celle qui consiste à employer torture, traitements inhumains et dégradants, mais encore celle qui consiste à ramener un être humain à une seule caractéristique, sa dangerosité. Et je citerai un jeune auteur qui m'est particulièrement proche, qui a publié un article dans la revue de sciences criminelles et qui écrit cela: réduire un être humain à sa seule dangerosité reviendrait à lui refuser toutes autres caractéristiques que l'on accepterait de reconnaître dans les autres membres de la communauté humaine, les non-dangereux, et par ce mouvement réducteur, à refuser d'admettre son égale dignité. Ou encore la déshumanisation qui consiste à prédire la dangerosité d'une personne, soit à raison d'une appartenance à un groupe, une minorité, soit en fonction de données statistiques, c'est-à-dire en niant l'irréductible singularité de chaque être humain. Si la déshumanisation passe moins qu'autrefois par l'animalisation, encore qu'il ne faille pas sous-estimer l'engage médiatique, c'est la chosification qui guette, les comportements humains étant analysés à l'aide de concepts et méthodes élaborés, par exemple, pour les produits dangereux. Et Mireille Delmas-Marty a justement souligné dans son cours l'emploi de termes empruntés au monde des choses, risques, traçabilité, etc. Par ailleurs, la position de Jacob selon laquelle les ennemis se sont eux-mêmes exclus du jeu ne permet pas de prendre en compte ou ne permet de prendre en compte que les ennemis volontaires, le terroriste, le violent, mais certainement pas ceux dont les facultés mentales leur interdisent tout choix. Et cette manière de dédouaner le système, après tout, ils l'ont bien cherché, me conduit inévitablement vers une deuxième lecture. Elle était déjà un peu polémique, elle va le devenir davantage. Les raisons de polémiquer sont multiples, je ne les épuiserai pas toutes. Le choix d'abord du mot « ennemi », lourd de connotation historique, d'autant plus lorsque l'on appuie son raisonnement sur une institution d'origine nazie. Lourd de réminiscences inévitables, théorie de Carl Schmitt ou de certains pénalistes nazis. Metzger, par exemple, parlant du projet concernant les étrangers et ennemis de la communauté, dans lequel étaient proposés et qui furent appliqués la stérilisation des personnes asociales dont l'héritage est indésirable, la castration des homosexuels, l'internement pour une durée indéterminée dans des camps de concentration des incorrigibles. Dans le futur, écrivait-il, il y aura deux droits pénaux. Un droit pour la généralité dans lequel essentiellement se maintiendront les principes appliqués jusqu'à présent, on croit entendre droit pénal du citoyen. Et un droit pénal complètement différent pour des groupes spéciaux de personnes déterminées, comme par exemple ceux qui ont tendance à la délinquance, on doit entendre droit pénal de l'ennemi. L'aspect décisif sera d'établir dans quel groupe sera incluse la personne en question. Une fois que l'inclusion sera faite, le droit spécial devra s'appliquer sans limite. Et à partir de ce moment, les différenciations juridiques n'auront plus de sens. Cette séparation entre divers groupes de personnes me semble réellement nouvelle. Là réside le commencement nouveau, là réside la terrible société, selon l'expression de Foucault. Faut-il alors reprocher à Jacobs d'avoir réveillé ses souvenirs, ou au contraire le remercier de souligner par cet emprunt tout ce vers quoi peut conduire une telle doctrine? Mais le mot ennemi renvoie encore, et Jacobs le dit expressément, à la lutte, à la guerre. Comme le montre parfaitement Massimo Donini, là je suis en train de vous donner envie de lire la revue de sciences criminelles, j'espère, le droit de l'ennemi, version américaine, et le droit de l'ennemi, version américaine, est pratiqué de manière à ne jamais arriver devant le juge. Ou en tout cas, c'est ce que l'on avait essayé de faire. Alors que le droit pénal de l'ennemi, la doctrine est une construction européenne, s'inscrit dans un processus judiciaire. tout à la fois respectueux de ces garanties juridictionnelles et perturbateur de ces mêmes garanties, dès lors que le juge serait appelé non à être un tiers impartial, mais à participer à la lutte et à devenir ainsi l'adversaire de la personne taxée d'ennemis. L'on pourrait dès lors soutenir, puisque nos juges ne ressemblent pas à cela, l'inappropriation de la formule « droit pénal de l'ennemi » au regard des pratiques du droit pénal de la dangerosité. Si ce n'est toutefois que l'on ne peut que s'interroger sur l'effectivité et l'efficacité du contrôle juridictionnel, sur la latitude du juge face aux expertises ou pronostics de dangerosité, mais aussi sur la protection réelle qu'offrent les droits de l'homme. Comment ne pas être troublé, à l'exception des décisions qui se sont prononcées sur la torture? Comment ne pas être troublé lorsque l'on constate que les censures ou condamnations des cours constitutionnelles ou de la Cour européenne ne se sont faites qu'à la marge et n'atteignent pas le cœur des mesures? Par exemple, c'est la rétroactivité de la rétention de sûreté que le Conseil constitutionnel a censurée. C'est la combinaison de fouilles corporelles dans les établissements de sécurité maximale néerlandais associés à d'autres mesures de sécurité qui a conduit la Cour européenne à retenir une violation de l'article 3. Le risque, il faut espérer qu'il ne se réalisera pas, mais le risque serait que ne soient rendues effectives que des garanties qui laissent finalement intacte la substance même du droit pénal de la dangerosité. C'est ensuite l'affirmation par Jacobs qu'un État même de droit ne peut pas se passer d'un droit pénal de l'ennemi. C'est donc affirmer l'efficacité de ce droit, sa nécessité pour assurer la sécurité. Je ne ferai que deux remarques. La première est indéniablement une boutade. Jean Pradel, dans l'article que j'ai cité, après avoir rappelé les expériences étrangères, ajoute « Nos criminels sont-ils donc plus raisonnables que ceux des pays voisins ?» qui eux seuls auraient besoin d'une telle ligne Maginot pénale. La ligne Maginot, c'est vrai. La France se croyait bien à l'abri derrière. Vous connaissez la suite de l'histoire. Je trouve excellente cette formule de Jean Pradel de ligne Maginot, car elle dit parfaitement ce que Jean Pradel, qu'il me pardonne cette ironie, ne voulait pas dire. À savoir que se mettent en place des leurres de sécurité qui ne protégeront pas les sociétés, mais que les atteintes aux libertés individuelles, elles, sont ou seront bien réelles. La deuxième remarque est que l'on affirme protéger la société en enfermant à vie un dangereux, mais l'on affirme ou l'on affirmait aussi protéger la société en exécutant les criminels, qui est la mesure de sûreté par excellence. Si donc éprouver l'inefficacité quant à la protection de la société de la peine de mort, l'on doit admettre l'inefficacité de toute autre mesure d'élimination. Mais, et ce sera ma dernière réflexion, c'est évidemment la posture prétendue de Jacobs et ce qu'elle emporte qui prête le plus à polémique. Une posture d'observateur neutre décrivant simplement une réalité. Cette posture de neutralité, Jacobs ne la tient pas puisqu'il se prononce pour la nécessité d'un droit pénal de l'ennemi. Mais s'il ne la tient pas, ce n'est pas par défaillance, c'est parce qu'une telle posture est intenable. Je vous renverrai simplement à la lecture de l'article de Zaffaroni, dans la revue de sciences criminelles évidemment, et à ce qu'il appelle l'indéniable nature politique du savoir juridique pénal. Mais l'important est qu'en présentant comme une évidence neutre et en le théorisant, l'existence d'un droit pénal de l'ennemi, Jacobs ne l'aurait-il pas voulu, le légitime comme une catégorie du pensable. Or, c'est cette légitimation même que l'on doit interroger, du moins lorsque l'on ne prétend pas à la neutralité scientifique et que l'on croit en l'esprit de résistance. Je laisserai les derniers mots de mon intervention à Zaffaroni, dont le titre de l'article est on ne peut plus clair et engagé. Dans un état de droit, il n'y a que des délinquants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ennemis. Il alerte sur le danger que courent les états de droit à admettre certaines pratiques. Tous les états de droit de ce monde, écrit-il, sont en réalité un processus de contradiction permanente entre l'état de droit et l'état de police, qui reste enfermé à l'intérieur de l'état de droit, encapsulé, contenu, mais avec des pulsions constantes essayant de perforer et, si possible, de faire éclater la capsule. Aussitôt que la contention s'affaiblit, l'état de police émerge avec la tendance à dériver vers un état absolu. Son exhortation est alors la suivante. Les lois continuent d'exister, mais la science juridique pénale doit les délégitimer. C'est la puissance du discours qui est l'unique force qu'exerce le savoir juridique, et pour vaincre tout esprit de résignation, il ajoute, il n'y a pas de pouvoir qui subsiste sans le discours qui le légitime, ou du moins il s'affaiblit dans une bonne mesure, et c'est un Argentin qui écrit cela. Je vous remercie de votre attention.